Ceci est la fenêtre du pornographe. Elle a été diffusée avant les nouvelles, avant l'émission.
Son hein? haleine, en fait.
Hey, on est arrivé, là. C'est juste à gauche, là. Juste là.
Ouh, hey, enregistrer une entrevue dans le salon de Guy Carbone. Aurais-tu cru ça, toi?
Et non, jamais.
Il y a une vieille Pontiac rouillée dans l'entrée. Ben, c'est oui. ça, Carbo,
ben,
vous pensez?
Non, ben...
Man, un jour, la vérité va sortir.
Pornographe, après les nouvelles.
Émission du 11 décembre 2009. Je sais pas vous autres, mais moi, je suis déjà pas mal écœuré de PLD.
Je vais en mettre deux.
Hey, j'ai trouvé une recette sur Internet là, pour faire disparaître quelqu'un, puis ça devrait marcher avec le centenaire.
Oh, yes. Excellent, ouais, moi j'en peux plus. Continue encore de nous
non,
en parler.
Je sais, ça n'a pas d'allure. Bon, fait que dans un grand bol, mettez un objet représentatif de la personne à faire disparaître.
Ah,
OK, un maudit famillon de char de Canadien. Merci. Versez un peu d'alcool dessus. Tiens, une bière à 10$.
Mm-hmm.
OK, après, dites la formule magique. Diggy-boom, diggy-boom, pow-pow. OK, les gars.
Diggy-boom, diggy-boom, pow-pow.
Centenaire?
Hein?
Ben, il est parti, je pense.
Ah.
Ma manchette, c'est bien. Autre centenaire, différente réalité.
Ah ben, maudit un nouveau centenaire.
Messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre édition de Spornographe en direct en compagnie de mes deux faire-valoir, Yvan Piquette et Paul Meilleur au coin.
Salut, man.
Salut. Grosse soirée pour vous, chers auditeurs, alors que nous vous diffuserons et en différé. Mais en direct ce soir, une entrevue exclusive pré-enregistrée du salon de Guy Carbonneau. Oui,
mais
messieurs.
Là, t'as peu, là, on a interviewé pour vrai le salon de Guy Carbonneau.
Ben non, vous étiez là. On a enregistré une entrevue avec Guy Carbonneau, mais dans son salon.
Ouais,
et ça donne tout un résultat. Oui, monsieur. Yvan, c'est la fin de l'année qui s'en vient. Là. C'est le temps de donner nos crédits annuels à qui de droit?
Oui, monsieur. Comme chaque année que Canadien apporte, nos petits lutins sont à préparer le palmarès 2009 des citations sportives les plus meilleures. Alors, nous vous invitons à vous rendre à l'adresse pornographe.radiocanada.ca/palmarès et à voter pour votre citation de l'année.
Ouais,
les résultats seront dévoilés au cours de l'émission de la semaine prochaine.
Et il y en a pas mal. Et votre préféré là-dedans, Piquette?
Ben, c'est comme mes enfants. Hein. Je les aime tous égales.
Ben, moi, en tout cas, j'en ai une préférée, c'est celle de ma fille.
Papa? Le Canadien est pourri!
Tais-toi!
Pas vite, votre fille, on dit Canadien avec pas de le. Deuxième chance, Juliette.
Ben, le pornographe est pourri.
C'est bien bête.
Le pornographe est là! Le pornographe est là!
Cette semaine, au grand moment du bobsleigh, on joue au backgammon avec Esa Tikkanen, on parle dans le dos de Brent Gilchrist, puis on vérifie si Sean Bell est le frère de Sand Bell. En plus, on est commandité par les œufs. Les œufs, c'est bon des œufs. Mange des œufs, man, c'est important. Les grands moments du bobsleigh, sur les ondes de Radio-Canada Sport Amateur, aux 15 minutes de l'heure.
Chronique Sport et Société avec Fred Savard, alias Maître Verge.
Toi que Noël planta chez nous.
Ah, dans la voix de fée de Marie-Chantal Toupin et son grand succès Mon beau sapin, qu'elle continuera de nous passer un peu partout durant les fêtes. D'ailleurs, ne ratez pas son passage à l'Oratoire Saint-Joseph ce week-end.
C'est dans le sous-sol.
Oui, dans le sous-sol de l'Oratoire. Il reste encore beaucoup de billets. Fred Savard, alias Maître Verge, qui désire demeurer dans la thématique des fêtes de Noël, vous venez nous parler de que c'est ce soir?
Ben, vous savez comme moi que nous sommes souvent qualifiés aux pornographes d'être des pseudo-intellectuels arrogants et sans pitié, en plus de gaspiller le trésor public pour dire des niaiseries. Tout cela est vrai, mais nous avons aussi un cœur et sommes attentifs, malgré les apparences, au sort de notre prochain, même si celui-ci démontre, jour après jour, une compétence souvent douteuse, que ce soit sur les ondes ou sur le papier. Qu'à cela ne tienne, j'ai pensé aujourd'hui non seulement offrir quelques présents, mais aussi mes souhaits les plus sincères du temps des fêtes à l'intention de l'aréophage de plumes et de micros qui gravitent autour de la parfois très nébuleuse nébuleuse canadienne.
Bonne idée. C'est gentil, ça.
Oh. Alors, ce sera sous les bons auspices de Jimmy Smith.
Ben
Alors d'abord, à Jean-Charles Lajoie, notre favori. J'espère que le Père Noël sera généreux pour lui et déposera sous son sapin l'intégrale des citations d'Oscar Wilde.
Ah ouais.
Ce sera parfait pour Jean-Charles. Les citations sont courtes, ce qui permet difficilement d'en changer les mots. À Jacques Thériault, je lui souhaite de la paix dans son cœur et je lui souhaite également de trouver les mots pour dire combien il nous déteste. Comme le dirait le poète, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est toujours de la bonne pub, Vera.
C'est vrai.
Aaron Fournier, je ne peux que lui souhaiter de poursuivre une nouvelle croisade pour que Canadien retire de nouveaux numéros.
Ah,
il y a Silvio Manta hein, qui mériterait sûrement qu'on s'intéresse à son dossier. Il faudra d'abord agrandir le plafond du Centre Bell pour accueillir de nouvelles bannières, mais on fait confiance aux frères Molson, là, Jeffrey, Andrew, Justin, Crackle et Pop pour le faire. À Charles-André Marchand, je lui souhaite une émission bien à lui. C'est à peu près le seul à Corus qui peut s'exprimer pendant deux heures sur d'autres choses que le hockey sans que Maurice Becherel ne se retourne dans sa bière.
Ah.
À Martin Lemay, hein, je lui souhaite du repos pendant le temps des fêtes l'an dernier. Il avait remplacé tous ses collègues en vacances, l'obligeant à rester en onde plus de 460 heures consécutives.
Ben, incroyable.
À Michel Villeneuve, ben, je lui souhaite seulement de ne pas se mordre la langue pendant le temps des fêtes, question de ne pas s'empoisonner sévèrement. À Danny Dubé, je lui souhaite de poursuivre son excellent travail et je m'explique.
Oui, oui.
Danny est le meilleur analyste de hockey de tout le système solaire.
C'est vrai.
À son collègue Martin McGuire, je lui souhaite de recevoir de plus gros pompons bleu-blanc-rouge afin de poursuivre son excellent travail de cheerleader officiel de Canadien.
Mais il est bon.
Ouais. À Régent Tremblay, que peut-on souhaiter à un homme qui possède déjà tout? Il y a une plume extraordinaire, plusieurs Harley Davidson disséminés dans ses 6 maisons secondaires, des amis puissants, riches et célèbres. La seule chose qui lui manque, c'est la tête de Bob Guéné.
Bonne idée.
Heureusement, le Père Noël ne pourra l'exaucer. On compte sûrement sur Régent pour plutôt publier un livre prouvant à l'aide de chiffres triturés que Bob Guéné est enfin un franc-maçon orangiste qui se voue corps et âme à l'organisation de génocide sur les francophones du monde entier. À Michel Bergeron, je lui souhaite de trouver sous son sapin la fameuse machine qui permet à ceux qui sont pris dans le passé de revenir dans le présent. Un peu comme Michael J. Fox dans le film Retour vers Del Hunter.
C'est
un bon film. Chez nos amis de RDS, je n'ai de souhait que pour Pierre Houd, en espérant qu'il trouve sous son arbre la caisse de résonance Dernier Cri qui lui permettra de poursuivre l'excellente conversation qu'il a entamée avec lui-même depuis 15 ans à RDS. Et pour vous, mes amis du Spornographe, je vous souhaite bien sûr un temps des fêtes opulent que vous méritez grâce à vos cachets stratosphériques qui vous permettront certainement de partir en voyage dans des lieux exotiques entourés de vos 22 recherchistes qui, pour l'occasion, se transformeront en nymphes éthérées, gorgées de vos délicatesses, de vos élans passionnels et sustentées de mets fins et de vins délicieux. Et j'en profite également pour souhaiter à tous nos auditeurs un excellent temps des fêtes. On se reverra, s'il n'en tient qu'à vous, en 2010 pour célébrer le 101e anniversaire de Canadien à tout le monde. Joyeuses fêtes!
Go up, go! Merci, merci beaucoup.
Hey, Ermi, as-tu écouté la game des Canadiens hier?
Maudit Canadien! Je te dis, disons, Canadien, c'est pas mal fini pour la série!
Voyons, tu suis pas Canadien? Canadiens sont rendus super forts!
Cette situation vous arrive souvent au bureau? Sportnographe.com pour se faire une bonne opinion avec pas d'informations.
Hey, Ermi, as-tu écouté la game des Canadiens hier?
Hey, Canadien, c'était la coupe cette année? Canadien all the way! Allions-tu fumer une petite cravenée avec Robert Frosy en bas?
Sportnographe.com pour savoir si vous devez chialer ou pas contre Canadiens aujourd'hui.
Le brigadier des internets.
Un peu comme trouver un panda pour un zoo à Blainville, genre.
Exactement. Ah, très difficile à convaincre un spécimen en santé que Blainville, c'est le meilleur endroit pour manger de l'eucalyptus.
Voyons donc, c'est ça. On va lâcher un coup de fil au brigadier des internets, voir. Hey, Paul!
Si tu veux?
C'est-tu vrai que les pandas mangent de l'eucalyptus?
T'as peu, elle m'a de googler ça, man. Ah, pis j'y pense, Yvan. Pas besoin de te googler ça. Je le sais. C'est pas les pandas pantoutes qui mangent l'eucalyptus, c'est les koalas.
Mais Paul, pourquoi Réal a dit ça en ondes?
Yvan, c'est que Réal vient du Saguenay, pis quand il a fait son cégep, ben l'anthropologie se rendait pas encore là-bas. Ça fait qu'aujourd'hui, il vit dans un univers de vérité mensongère. Et comme c'est le cas pour les tribus de l'Amazonie, les spécialistes sont unanimes. Vaut mieux ne pas lui révéler la vérité, car tout son monde s'écroulerait.
Ouais, mais il est quand même devenu animateur à radio de Radio-Canada.
Effectivement, Yvan, mais ça, c'est grâce au contact de son père.
Paul, vous êtes un génie.
Merci, brigadier.
Eh bien, voici venu le temps de la chronique à José. Alors, de quoi allez-vous nous parler, José, ce soir?
Aujourd'hui, j'aborderai le deuxième volet de la trilogie typologique de la rhétorique sportive télévisée avec l'émission L'Attaque à 5 de VTV. Hey,
ça, c'est
José. Alors oui, L'Attaque à 5, animée par Jean Pagé et anciennement connue sous le nom de 110%.
Piquette.
C'est
C'est quoi vous faites en ce moment? C'est la chronique à José.
Ben oui, mais justement, l'attaque à 5, il y a la chronique à Evelyne, la fille de Call TV. Ouais. La chronique à Evelyne, ben c'est les gars qui la font. Fait que je fais ça moi aussi.
Merci José.
Salut. Commençons par le décor. Ouais. En fait, si vous regardez pas l'attaque à 5, dites-vous que c'est le même décor que les autres émissions de VTL, comme Mario Dumont 360, mais avec pas les mêmes couleurs.
Ça, c'est vrai.
Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Alors, point suivant, les commandites.
Parfait.
Je vous disais que l'antichambre est entre autres commanditée par les hot dogs Lafleur. C'est bon. Eh bien, l'attaque à 5, c'est Bud Light qui est le commanditaire, à tel point que le vendredi, les débatteurs s'en ouvrent une petite et qui sont même allés jusqu'à renommer le buzzer de leur quiz.
Qui est le joueur le mieux payé de la LNH cette saison?
Bud Light!
Ovechkin. Exactement ça.
J'allais le dire.
Selon vous, a subtilement placé ce produit?
Bud Light.
Oui, Réal?
Pierre Infret.
C'est ça!
Bravo! Hey,
bravo! Oui! Sinon, ben, l'attaque à 5 a bien sûr son ancien coach de la Ligue nationale, et dont le moindre, Jean Perron.
Ouais.
Un gars que des fois, il commence une histoire avant la pause.
Ah ouais?
OK, moi, je suis arrivé à Montréal, j'ai aimé ces joueurs-là. Les jeunes, les Claude Lemieux, les Richer, les Dondeux, les Bé à
Et puis là,
fini.
La continue pendant les annonces et la termine après la pause.
Oui, ces jeunes-là, je les ai aimés, je les ai vendus, puis je les ai fait jouer.
Savais-tu qu'on était parti à la pause?
Non, mais moi, j'étais tellement embarqué dans mon affaire.
C'est important d'aller jusqu'au bout de ses idées, c'est vous savez, monsieur. Et l'attaque à 5, c'est donner les moyens de ses ambitions en engageant les débatteurs les plus spectaculaires et les moins coûteux.
Aussi.
Parce que la plupart des champions de la joute orale se sont fait offrir le moton par les compétiteurs de 110% il y a quelques années. Restent donc les plus divertissants, à mon humble avis. Jean-Charles Lajoie, Marc Bureau, Gabriel Grégoire, Pierre Infret, puis un gars de Québec.
Ah oui, lui.
Et ce beau ramassis de personnalités fortes donne lieu, comme à l'Antichambre et à l'Assemblée nationale, à de beaux moments de parlage en même temps, mais qui se finissent souvent par une insulte. Et c'est là une des caractéristiques qui distingue cette émission de la compétition.
Et Gabi en donne 100 000 à l'heure. Si lui, qui est pourtant
si
un senior, lui,
équipes,
lui, il dit, j'ai pas de problème avec ça
si
qu'on fait.
Si à 8 équipes, toi, ça te paraît facile. Si, moi, je te dis qu'à 8 équipes...
Tu peux bien être membre du Parti vert.
Oh, ça, c'est chien. J'aimerais pas être à la place de Gabriel Grégoire.
Non.
Et cette tendance à l'insulte a comme conséquence que les débatteurs finissent par se tomber mutuellement sur les nerfs. Jean Perron.
Il a été lamentable.
Bon, il a été.
Il passait son temps sur le derrière.
Arrête de crier, calique. Tu me cœurs.
Il est même pas capable.
Arrête,
Jean-Charles.
Arrête de crier, calique.
Hey, s'il criait pas, ça serait plate, calique.
Bien dit.
D'ailleurs, il semble que Jean-Charles soit souvent au cœur des dites chicanes, comme ce fut le cas lors de la célèbre bataille des ailes de poulet. Dans le coin gauche, Richard Labbé.
Jean-Charles, je vais t'expliquer ça en des termes que toi, tu vas comprendre.
Ouais.
Imagine-toi une boîte d'ailes de poulet, OK? Ouais. Ça, tu peux comprendre ça, jusqu'à date, ça va bien. Dans la boîte d'ailes de poulet, il y en a qui sont meilleurs que d'autres.
Ouais.
Clip d'hockey, c'est comme ça. Tu me suis jusqu'à date? Pas trop compliqué? Parfait.
Ah ouais.
Et dans le coin centre-droit, Jean-Charles Lajoie.
Toi, Richard, là, un aile de poulet, c'est ça que t'as entre les deux oreilles. C'est ça que je comprends dans ce que tu m'annonces
s'il vous plaît,
là.
Messieurs.
Et là, on se dit, ça peut pas aller plus loin en matière de coup bas. Mais oui.
T'as-tu une capacité de discernement?
Ben, attends, premièrement, je peux pas répondre à un gars qui a sa job parce qu'il a gagné un concours. Là. OK, attends.
Tu parles d'un argument.
Ouais.
Regardez Annie Villeneuve, elle a participé à un concours puis ça l'empêche pas de sortir avec Guillaume Latendresse.
Pour son rôle d'apprécier son maniement du lexique de l'aile de poulet, le gagnant, Jean-Charles Lajoie.
On n'est pas dans le débat, là.
Non,
on est dans la chronique
ça,
à José.
À ça,
en tout cas, la semaine prochaine, je vous offre le dernier volet de ma trilogie avec La Zone, une présentation de Cold FX.
Cette semaine à Hockeyographie, la carrière de Peter Ng. Natif de Toronto, Peter Ng est le fils d'un papa chinois et d'une maman qui aurait dû plus insister pour un nom composé. Gardien junior étoile, Ng signe avec le Toronto et connaît des débuts plus que prometteurs. Jusqu'à ce que la guigne s'acharne sur Ng. Ng aligne les performances indignes et Maple Leaf la signe dans la American League. C'est là que Peter découvre la misère. Il voyage de nuit en autobus en mangeant des roteux frettes que le gars du dressing a mis du chou dedans, même si Peter avait dit pas de chou. Finalement, Toronto échange à Edmonton, qui à son tour échange au Red Wing. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Ng se résigne. Il abandonne le goaltending et va faire un bac en marketing. Ng travaille aujourd'hui dans un casino de l'Indiana, où il occupe le poste de directeur du slot marketing. On est allé sur Google voir c'était quoi du slot marketing, et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a reconnu des filles de la pub de Georges Larac en G-string.
Je suis le Spornographe et vous écoutez Xavier Dolan.
Des nouvelles de Québec, on n'en veut pas. Mais on en.
Votre fils vous oblige à vous lever à 5h30 du matin trois fois par semaine pour aller à l'aréna?
Eh oui.
Pourquoi ne pas hypothéquer une autre belle journée de fin de semaine à la foire provinciale du hockey de Québec?
Bonne
et avec le slogan 24 000 pieds carrés de pur hockey, on n'a pas pu s'empêcher d'y envoyer notre reporter national senior, Christian Rock. Christian, bonsoir.
Bonsoir les gars.
Salut.
Et d'abord, savez-vous qu'est-ce que ça représente comme superficie 24 000 pieds carrés de pur hockey?
24 000 terrains de football.
Non, ça donne un demi-acre.
Ouais.
Oh,
ouais.
C'est un peu ordinaire de même.
Ben
hein?
Ouais.
On comprend que les organisateurs ont choisi le système impérial. Ah, c'est
ouais.
toujours plus prompt à impressionner.
Christian Rock, c'était comment la foire du hockey?
C'était pas évident.
Ah.
Écoutez,
ah.
depuis votre passage à Tout le monde en parle, c'est pas mal plus difficile de faire notre travail, nous, les correspondants sur le terrain.
Ben, désolé.
J'ai décidé d'abuser un peu du guide de déontologie de Radio-Canada en utilisant un faux nom sans raison valable. Je me suis donc présenté sous le sobriquet de Rock Chrétien.
Oh.
Et personne ne m'a reconnu.
Brillant. Alors, je vous appelle Rock. Je repose ma question. C'était comment la foire du hockey?
Instructif.
Bon, parle-moi de ça.
J'ai appris plein de choses.
Okay.
Par exemple, patiner sur de la glace, c'est complètement out.
Ah. Okay.
Ouais. Maintenant, ce qui est cool, c'est de patiner sur du polymère.
Ben oui.
Ou en langage compréhensif, sur de la glace avec pas de glace.
Okay.
On va écouter François Bilodeau de Glace synthétique du Canada.
Ça permet à nos jeunes vraiment de pouvoir patiner à l'année longue sur une surface qui n'est pas de la glace, qui est comme de la glace, mais que ça n'est pas. C'est ça. Mais c'est en plastique, mais c'est pas de la glace.
C'est ça.
Okay. Hey,
ça, pas... ça, c'est clair, comme on dit.
Ouais, tout à fait. En fait, il s'agit de panneaux de plastique très, très denses qui s'assemblent un peu comme, tu sais, les tapis de foam lait multicouleurs que vos amis qui ont des jeunes enfants ont dans leur salon. Comme un casse-tête.
Ouais, je connais ça. Là.
Bon. Alors, on m'a expliqué que la sensation sur le patin, c'était un peu comme une glace en troisième période au mois de mai, genre mou.
Ah, c'était à la fin.
Moi, j'ai mis en garde M. Bilodeau parce que les chauffeurs de Zamboni risquent de lui envoyer des poissons morts par la poste si son invention gagne en popularité. On l'écoute à ce sujet.
Aucune Zamboni, la seule maintenance qu'on a à faire, c'est mou et on prend un squeegee. C'est neige, on la pelte. Et puis, une fois par deux, trois jours, on met un genre de silicone par-dessus qui prend 10 minutes à faire.
Genre et... de lubrifiant.
En fait. Exactement.
Du KY, finalement, c'est la surface.
Je sais pas si ça marchait. On l'a pas essayé encore. On pourrait l'essayer.
Ouais, bonne question. Christian, dites-moi, est-ce qu'il y avait autre chose qui a capté votre intérêt?
Oui, il y a une chose qui a capté mon intérêt à travers tout. C'est un poster géant représentant un mollet humain, mais couvert de gros pustules sanguignolantes.
Un mollet humain.
Okay. C'était plus proche de la pizza que de l'être humain.
C'était assez, là, je pense.
Ouais. C'était pas vraiment chic. Okay. Moi, je me suis informé auprès de Robert de EcoSport. Mm-hmm. Je lui ai demandé pourquoi une affiche aussi dégoûtante pour leur kiosque.
Ouais, c'est quoi le buzz?
Ben, figurez-vous qu'il faut laver son équipement de hockey, Manja.
Arrêtez donc.
Sinon, c'est la lèpre assurée.
Eh bien, voyons.
Mais écoutons Robert qui me parlait de tout ça en mangeant une pomme.
Parce que toutes les bactéries s'accumulent, puis c'est sûr que ça peut causer une sorte de démangeaison ou des genres de maladies.
Oui, ben les démangeaisons gênantes, ça ne se règle pas seulement avec de la crème Vasigil. Hein. Un bon nettoyage de jackstrap annuel, ça s'impose, selon notre expert.
Vous avez vraiment croisé du monde bizarre à la foire du hockey. Laver son équipement, c'est pas très mal.
Non,
mais avez-vous rencontré du monde respectable, au moins?
Vous voulez dire du monde connu?
Oui, comme nous autres.
Ben, bien sûr.
Okay.
Ben, j'ai rencontré des anciens nordiques.
Ouais.
C'est un peu pléonasmique à dire, ça. Ben, il y avait Michel Goulet, par exemple, ou Alain Côté.
Wow.
Mais ils ont rasé leur moustache depuis la prise de la photo autographiée.
J'étais un peu déçu. Je comprends.
Mais la star de la foire, c'était sans aucun doute Michel Bergeron en personne. Le tigre, toi, chose.
Ben oui, toi, chose.
Alors, ben, comme les médias ces temps-ci n'arrêtent pas de parler de l'autre tigre, Tiger Woods, et de son image de ticoune parfait brisée par le scandale d'infidélité, moi, j'ai été direct avec M. Bergeron. Je lui ai posé les vraies questions.
Ouais, vous êtes de même.
Mais vous, vous pensez pas que votre image publique est basée sur votre perfection?
Ben, je pense que tout le monde a une image publique. Les gens publics en ont plus. Ça, c'est évident.
C'est évident. T'as un méchant bon point, mon Michel. Hey, Christian, merci beaucoup d'avoir négligé votre blonde pour nous tenir informés.
C'est quand vous voulez, les gars.
Excellent.
Salut. Salut.
Ce soir à Dossier Mystère, des jappements d'outre-tombe qui s'insèrent dans une entrevue avec Mike Bossy. Est-ce parce que CKAC est bâti sur un ancien cimetière d'animaux?
À un moment donné, un homme d'affaires... un homme d'affaires en a assez. Mike...
Après enquête, il semble que le chien de Mike Bossy répondait tout simplement à celui de Jacques Demers.
Mais Buffalo, c'est un petit marché. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chance de survie si on s'en va à Hamilton.
Un autre mystère élucidé.
Pornographe Sport.
Les passionnés du radio. La radio interactive depuis toujours.
Retrouvons Réal Manger.
Mon souvenir le plus vif dans les studios du Pornographe, c'est certainement quand, à chaque enregistrement, juste avant de peser sur record, Paul, Yvan et moi, ben, on se tient la main et on prie pour que Donald Beauchamp, le responsable des relations médias de Canadien, retourne notre appel. On sait qu'il est occupé à ce que l'équipe ne soit jamais dérangée afin qu'elle puisse livrer une performance hors du commun sur la glace. Et on voudrait vraiment pas les déranger. Ils réussissent si bien, mais n'empêche, à ce moment, on sait que Donald nous entend dans sa tête et qu'un jour, il va nous dire « On vous envoie George Chargers demain. »
Spornographe Sport.
Vous écoutez le Spornographe. Retrouvons Piquette, Manger et Meilleur au coin.
Là, tu travailles seul comme un dit. Chien.
Comme un chien. Un vulgaire chien.
Dans sa niche.
Ah, sais-tu quoi? Rapporte-nous pas plus mal.
Non. Comme on peut seulement aller au Centre Bell quand le Canadien n'est pas là, Réal Manger a profité du récent passage des Super Dogs dans le temple de la grosse à 13$ afin de pouvoir vivre l'ambiance que cette bâtisse peut offrir à une horde de fans encourageant leur héros préféré. Réal, avant de commencer, je vous poserai deux questions. La première, c'est que c'est ça le Super Dogs et la deuxième, pourquoi?
Écoutez, ben, je vais vous l'expliquer dans vos mots pour que vous compreniez bien, Paul. Imaginez un panier d'ailes de poulet. Okay. Vous me suivez,
un panier,
là?
Oui, un panier.
Ouais, ben, les Super Dogs, c'est pareil. Petit, surprenant, pas cher à produire, et pourtant succulent comme pas un. En gros, c'est un immense spectacle de chiens savants qui remplissent de bonheur les enfants et les poches du gars qui organise ça. Pour votre deuxième question, Paul, eh bien, sachez que tout ça, c'est la faute d'Yvan Piquette lui-même en personne, alors qu'il avait déclaré dans une chronique passée.
Tout le plaisir est pour vous. Et en passant, vous planifiez un reportage sur les concours de beauté pour chiens assez bateaux.
Yeah!
Bon, le Superdogs, c'est pas vraiment un concours de beauté comme tel, mais comme n'importe quelle vedette qui joue au Centre Bell, un petit peu de gel dans les cheveux avant de rentrer sa glace, c'est jamais trop. Cela dit, je suis également allé au Superdogs pour voir à quel point la sécurité du centre téléphone est proportionnelle à la présence de joueurs de Canadiens.
Ouais,
eh bien, sachez qu'un Centre Bell sans Maxime Lapierre est aussi slack dans la sécurité qu'un barrage d'hydro en plein hiver. Oh. Pour les intéressés, je suis arrivé un peu comme un chien dans un jeu de quilles, merci. Alors que toute la meute était en pleine séance d'entraînement, prêt à embarquer sur la glace. D'ailleurs, plusieurs semblaient très fébriles dans leur cage en métal d'un mètre carré avec la vieille gazette empilées les unes sur les autres comme des poulets qui attendent d'aller à l'abattoir.
C'est scandaleux.
J'en ai profité pour aller voir Ricky, un des espoirs de la soirée et ancien choix de première ronde, et je lui ai demandé son plan de match.
Écoute, y a plusieurs gars qui jouent chez eux ce soir. Fait qu'on va donner notre 110% pour que la foule en ait pour son argent. Si ça te dérange pas trop, je vais te laisser. Faut que j'aille faire mes besoins sur ma gazette.
Ben, comme le précise Ricky, il y avait pour cette soirée montréalaise plus de Québécois chez le Superdogs que chez Canadiens des trois dernières années. D'ailleurs, Charlie de Rosemère était très excité de jouer devant ses partisans et disons que ça se sentait.
Salut Charlie.
Je me suis donc dirigé vers la galerie de presse où était présent absolument personne de la presse à part moi pour assister à cet événement et je me suis assis sur le banc de François Gagnon et j'ai même emprunté ses internets afin de partager mon excitation pour ce qui était le clou de la soirée, une game avec des chiens.
Non.
Ils ont vraiment joué au hockey.
Non, c'est des chiens intelligents, mais un peu moins que des joueurs de hockey quand même. Ça fait que c'était plus une partie de chaises musicales dans laquelle on avait remplacé les chaises par des tapis des équipes de hockey canadiennes.
Fou malade, ça.
C'est fou malade, effectivement. Ben, sachez quand même que c'était un Boston Terrier qui était en charge du tapis de Canadiens. Et ça s'est terminé par un match nul parce que le coqueur en charge du tapis des Vancouver ne suivait pas le match et a raté son cue.
Les enfants devaient être déçus. Ils dormaient pas, Vancouver.
Oui, ils s'en voulaient terrible, niaiseux.
Mais c'est pas un peu cruel d'habiller des chiens puis de leur faire faire des tours comme ça pour le bon plaisir des fafans?
C'est bien vrai, Piquette. Il ne faut pas oublier que derrière ces vedettes qui amusent les petits comme les grands, il y a des êtres vivants qui sont pleins d'émotions. Il ne faut pas être trop dur avec eux. Voilà. En fait, il faut les accompagner dans leurs succès comme dans leurs insuccès.
Bien dit.
La vie d'amuseur public n'est pas facile et dépend non seulement des performances, mais également de la vente de publicité et des profits engendrés. Ce qui me fait penser que je dois saluer les gens de l'usine Bouffe à chien Poitras de Brossard. La Bouffe à chien Poitras, votre toutou se délectera les moustaches.
Ouf, ouf!
Ah oui, hey, soit dit en passant, je sais qu'ils sont à l'écoute, ils écoutent tous les jours. La gang de l'usine de fabrication de la nourriture pour animaux Oven Baked à Saint-Hyacinthe, Oven Bacon, qui est disponible à peu près partout. C'est fait ici au Québec et on te vend ça comme ça, c'est de la nourriture cuite au four, c'est extraordinaire. Mes chiens en raffolent, vraiment, ils en redemandent.
Vous venez de finir de digérer vos bonbons d'Halloween? C'est le temps de commencer à penser tourtière avec le tout nouveau disque « Le Spornographe chante Noël ». Tous les classiques de Noël, dont « Les costitines dans notre champagne ».
Les costitines dans notre champagne avaient des bulles jusque dans les yeux.
Ainsi que « Les petits nains bleu, blanc, rouge ».
Les petits nains bleu, blanc, rouge.
Faites comme moi, Steph Choc. Passez Noël en compagnie des Spornographes. Le Spornographe chante Noël.
Disponible dans tous les bons magasins, Claude.
Hey les gars, je peux pas aller voir Canadien à soir à taverne. J'ai mon petit chien qui fait des petites coliques. Faut que j'y flatte la Thibaudan.
Mais voyons, Paul, c'est fini le temps du Dr Ballard.
Mais qu'est-ce que je fais là? Ça existe-tu du manger pour chien qui se digère bien?
Ben oui, offre à ton chien ce qu'il y a de mieux. Hein? Va chez Croquette Piquette et commande-toi un 50 livres de spécial poulet. Ton petit chien ne pourra plus s'en passer. Écoutez un autre client satisfait.
Ici Jacques Duval. Moi, je fais confiance à...
Les Croquettes Piquette.
Le meilleur de sa catégorie.
Il va se passer quelque chose.
L'information qui vous intéresse.
J'attends quelque chose de gros.
Trudel 360.
Je sais pas quoi, honnêtement.
Hey Pierre Trudel, le plancher est à vous, puis faites-nous prendre.
Vous le lave, quoi.
Faites donc ça, justement, c'est ça, l'emploi.
Tout le laver, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis là, on va revenir un petit peu dans le temps, mais pas loin.
Non,
ouais, Back to the Past, The Near Future, c'est lundi passé, en fin de compte. Match de hockey RDS, il y a des choses qui ont été dites, puis que j'essaie encore de les comprendre. Ouais. Mais d'abord, une petite note à Pierre-Houd. On dit Coupe Longueuil, hein, non pas Coupe de la Rive-Sud.
Comme dirait Normand Leblond, il a peur de ses mots.
Puis c'est ça, puis ceux qui apportent, on appelle ça des Ginos.
Des Ginos, on a
sa culture est faite.
Ah, okay.
Benoît Brunet, ben lui, je veux comprendre exactement où il veut en venir quand il affirme. Est-ce qu'il joue une bonne période? Non. Est-ce qu'il joue une mauvaise période? Non. Puis, j'attends la suite.
C'est peut-être un prochain match.
Il l'a pas dit où je l'ai manqué. Benoît Brunet, toujours en critiquant les Canettes, qui vient de perdre une mise en jeu dans la zone de Canadiens. Et je cite, « T'es pas obligé de la gagner, mais perds-la pas. »
Ça laisse peu de chance.
Alors, tout de suite après, pour essayer de se comprendre lui-même, il a dit quelque chose comme, « Ce que je veux dire, c'est arrange-toi au moins pour que la mise au jeu soit nulle.
Ouais. »
Moi, j'en ai jamais vu de mise au jeu nulle.
Faut que la rondelle reste vraiment sa ligne.
Tu appelles ça la POC aussi. Absolument, la rondelle est bonne ou de l'autre. Ça fait que, bon, en tout cas. Puis finalement, sur canoë.ca, à 19h40, le match commence. C'est l'égalité en début de match. Vérification faite, c'est souvent le cas.
ça dépend qui est dans les buts.
Mais c'est ça. Dossier Tiger Woods.
Ça, c'est tout désigné pour vous. Ça.
On est vendredi, là?
Oui, c'est ça.
À 11. Ouais. 11 qui affirme avoir couché avec Tiger.
Ouais.
Alors, c'est à croire qu'il vise le record de Will Chamberlain, qui s'est vanté d'avoir couché, lui, avec plus de 20 000 femmes. Mm. Sauf que M. Chamberlain, lui, n'a trompé personne, puisqu'il ne s'est jamais marié.
Ouais.
Puis il est mort en 1999, le sourire aux lèvres.
En fait,
on en est à 12 maîtresses autoproclamées, puisque juste avant d'entrer en studio tantôt, j'ai appris que Tiger avait aussi transgressé avec Lolita Tétro de Drummondville.
Je l'ai connue dans une ancienne vie.
Ça devait être la même, j'imagine. Lolita était prédestinée à travailler comme vendeuse dans un magasin d'articles de golf.
Vous avez pourtant dit de ne pas nous faire honte.
Non, c'est ça.
Vous m'y avez fait penser de le faire, de faire le contraire.
Une change ma cloche, mais même ma cloche.
On sait que Tiger, donc, n'a pas d'handicap ni au golf. Les conséquences dramatiques, vous le savez, de tous ces péchés de chair, les Illuminés qu'il avait fondés ont dissous la première église de Tiger Woods.
Mais oui, j'ai entendu parler de ça.
Le nom du pasteur, c'est John Ziegler, l'ancien président de la Ligue nationale. Donc, il y a un rapport hockey ici. Là, qui abandonne son Dieu, qui a le diable au cœur.
Mm.
Il semble par ailleurs que Tiger va consulter deux spécialistes dans ce genre de situation, Bill Clinton et David Letterman. Et qu'il devrait bientôt, et ça c'est vrai, par ailleurs, qu'il se confessait à la grande prêtresse des ondes au Oprah Winfrey.
C'est vrai,
j'ai hâte de voir ça.
Oh, oui, ça va être bon. Ça va être la bonne cote
d'écoute. Tiger au Spornographe.
Écoute, on peut faire des appels. On sait où il reste maintenant.
C'est vrai.
Puis j'ai su aussi ce qu'il jouait maintenant dans l'auto, ce qui reste de l'auto de Tiger sur son CD. La tune qui tourne le plus souvent, c'est Sex Machine de Tom Jones. Il y a aussi Sex Style de Cool Keith.
Bon, OK, bon, autre dossier
all
maintenant.
All you ever think about is sex, the spark, let me make love to you, the OJs.
Les clochettes seront pas suffisant.
Non, c'est ça.
Bois en mettre, là.
Oui. Coupé. Ça,
c'est... les pieds l'ont tombé, quoi.
OK, on va reprendre cette prise-là, les gars.
Quand à Ellen, elle fait jouer souvent, « I will survive the Glenda Gaynor. »
Bon! Ben, Pierre...
Ben, écoute, vous avez eu du golf, vous avez eu du hockey, mm-hmm. vous avez eu de la TV, vous avez eu du sexe.
Hey, tout ce qui nous manque, c'était du fun. OK, merci, Pierre.
Moi, on finit le plancher, là.
Le centenaire est fini. De que c'est qu'on va parler? 100 ans ont passé, tous avons célébré, les vieux joueurs ont été récompensés.
Oui.
Il est maintenant temps de mettre de côté le passé et de souligner la part des joueurs trop souvent oubliés. C'est pourquoi, messieurs, voilà la question que je vais vous poser.
Le
chandail de Kyle Chipchura, doit-on retirer? Piquette, êtes-vous pour?
Oui, messieurs. S'il y a une chose que tout le monde aime, c'est les interminables cérémonies plates d'avant-match avec les tapis rouges puis le monde qui braille.
Alors,
mais avec le retrait des chandos d'Elmer Lack et de Butch Bouchard, il n'y a plus ben d'anciennes vedettes à cérémonier. Hein? On va pas commencer à honorer le monde par rapport comme les joueurs de football qui ont gagné un petit trophée. C'est le temps de laisser la place aux jeunes. Et qui de mieux pour commencer que Kyle Chipchura, un gars qui a marqué l'histoire de Canadien en étant le seul choix de première ronde de l'histoire choisi parce qu'il allait faire un bon centre de troisième trio. C'est-tu pas assez phénoménal comme réalisation, ça?
Juste assez.
Et par-dessus le marché, selon notre stagiaire qui s'y connaît en joueur de Canadien, Kyle est le plus beau de tous les temps, encore plus beau que Boum Boum Joffrion. Pourquoi Boum Boum aurait le droit d'être en haut pis pas Chipchura, hein? Pis le gros avantage avec le beau Kyle, c'est que sa carrière est sur le bord de prendre fin. On peut déjà commencer les cérémonies.
Merci, Piquette. Paul, vous êtes con.
Ça, c'est vraiment le jeu. Permettez-moi de vous parler d'autres choses maintenant, les arts martiaux mixtes. Moi, je trouve que ça n'a pas d'allure pantoute, cette affaire-là. Ça se varge d'en face à coups de cuisse, puis ça s'étrangle à la TV, puis le monde en redemande. Ah ouais, frappe-y sur la pomme d'Adam, c'était un homme! Ouais, mais Paul, c'est encadré, cette affaire-là. Il y a un arbitre, des règlements, une fédération, puis ça, le crime organisé, c'est pas institutionnalisé, ça? C'est plus encadré que le système de justice. Coudon, êtes-vous un Hells Angels, Piquette?
Puis
ça vous allume pas de quoi dans la tête de savoir que ça s'appelait combat ultime full contact avant? Ben oui, pour que ça fasse moins mal à votre conscience de gros tata, ils ont décidé de changer de nom pour arts martiaux mixtes. Chapeau, hein? Vous, Piquette, si on proposait de changer le nom d'un meurtre au premier degré par thérapie radicale comportementale, trouveriez-vous ça cool de tuer votre prochain? Parlant de prochain, ben Chipchura risque de regarder les prochains matchs des Ducks à la galerie de la presse. Merci, bonsoir.
Bon, ben Piquette, parce que vous êtes le seul à avoir compris la question et que vous avez une belle tête de vainqueur, vous êtes un vainqueur.
Yeah!
Bonjour, ici Réjean Houle. Vous écoutez l'émission Spornographe à la radio de Radio-Canada.
Les Olympiques, nos amis!
Eh bien, il n'y a pas juste Noël qui approche, il y a aussi les Jeux de Vancouver.
C'est vrai.
Et notre amie Gisèle Lamotte est là pour nous en jaser. Bonsoir, Gisèle.
Bonsoir, salut. Les gars.
Bonsoir. Hey,
salut.
Et justement, à l'approche des fêtes, je vous parle d'un symbole de paix, de fraternité et d'amitié.
Canadien.
Et un autre indice. Au cours des dernières semaines, elle s'est promenée à traîneau, à chien, sur une Zamboni et a même passé devant la maison d'Anne au Pignon Vert.
C'est Marie-Chantal Toupin, la chanceuse.
Et tout le monde sort dans la rue pour la voir, c'est la rockstar des Jeux.
Ah ben oui.
Vous l'avez reconnue, la flamme olympique.
Oui.
Il y a plein de valeureux Canadiennes et Canadiens de tous les horizons qui portent bien haut la flamme dans un relais qui se terminera le 12 février avec l'allumage de la grande vasque à Vancouver. Toujours est-il que cette semaine, la flamme était dans la grande ville de Montréal et n'écoutant que mon courage, je suis sortie dans le blizzard. Et grâce à ce coureur, j'ai réussi à m'approcher de la flamme. On l'écoute.
Hey. Courait dans Gadou.
Oui, hein? Alors, vous l'aurez remarqué, il a préféré garder l'anonymat. Mais grâce à lui, en exclusivité au Spornographe, voici la flamme olympique.
Eh mon Dieu, ça crépite fort hein, quand même pour une flamme artificielle.
Oui, mais car c'est une flamme pure.
Mais
oui, avant d'être envoyée dans le pays hôte des Jeux, la flamme est allumée à Olympie à l'aide des rayons du soleil et d'un miroir parabolique lors d'une cérémonie avec des comédiennes grecques en toche blanche.
Incroyable.
Elle part ensuite de Grèce et transportée à pied si possible, mais bon, ce n'est pas toujours, vers le pays qui reçoit les Jeux. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait recréer ça en studio.
Ah, ben, ça semble bien aussi.
Ah, oui, j'y prends goût, les gars. Très facile à faire avec des accessoires simples à la maison, entre adultes, évidemment. Alors, Piquette, vous serez la déesse grecque.
Ça, c'est vrai, ça.
Munger, le soleil, à l'aide de cette lampe de poche.
Oh, merci.
Et vous, meilleur au coin, l'effet scientifique.
OK.
À l'aide de ce miroir et de ces allumettes que je vous passe.
Merci.
OK, j'y vais.
Ah, oui, OK.
Ouh, flamme olympique! Allume toi.
OK, c'est à moi.
OK, miroir, ouais, juste un petit peu. OK,
oh,
là, ouais,
oh,
c'est
on
bon.
Oh, okay. Okay. Le feu est créé. Magique!
Ça, c'est dangereux.
Alors, mais non, passez-moi ici ouais, cette flamme, chandelle okay. qui fait office de torche. Je vais vous faire une bonne vieille démonstration visuelle. Okay. Alors, okay. pour porter le flambeau, on fait comme ça une extension du bras vers le haut.
Ouais.
Alors, moi, je suis droitière, je réflexe la portée à droite.
Ouais, c'est comme ça, de l'air niaiseux,
mais c'est difficile. Mais en fait, c'est quand même un peu vite.
Attention, attention, là.
Pas trop vite, en fait. C'est 300 mètres seulement qu'on la porte.
300 mètres,
et il faut être capable de sourire. Ouais, et même de regarder la flamme comme ça avec émotion, parce que c'est toujours meilleur quand on regarde la flamme avec un petit peu d'eau dans les yeux. Ah, comme ouais, ça.
Ben c'est fantastique, Gisèle. On a vraiment l'impression que la flamme est passée dans notre studio, hein, tellement que ça pue la fumée. mais là, qu'est-ce qui arrive si la flamme s'éteint comme présentement?
Ben, c'est ça. On a des flammes pures de rechange.
Ah, ben
mais
oui.
Il faut mettre au courant ses employés. Là-dessus, laissez-moi vous raconter une savoureuse anecdote. À Montréal, en 76, la flamme brûle dans le milieu du stade. Mais il se met à avoir un gros orage. À l'époque, il n'y a pas de grosses bâches oranges sous le toit du stade. Alors là, la pluie est venue éteindre la flamme et il y a un employé qui discrètement l'a rallumée avec son briquet.
Sacrilège.
Mais ça, donc, on a rééteint la flamme impure et on a rallumé avec la flamme de rechange.
Ah, voilà. Ben ça a de l'allure.
Et pour terminer, je vous présente la chanson choisie pour la vidéo du relais de la flamme qu'on retrouve sur le site web de Vancouver 2010. Une chanson bien canadienne.
Ah ben oui.
Elle est tellement touchante.
Ben oui, c'est Coldplay,
c'est Longueuil, c'est ça.
Oui, c'est ça. En plus de ne pas être de chez nous, eh bien, c'est pas très original. C'est la même tune que le Canadien fait jouer quand il entre sa glace au Centre Bell.
C'est une idée, on n'y va jamais.
J'ai cru comprendre ça.
Oui, c'est ça.
Hey, c'est tout pour cette semaine.
Bon, ben.
Joyeux Noël.
Succès dans vos études.
Joyeux Noël aussi à vous. Merci, Gisèle.
Au revoir.
Flash Web avec Yvan Piquette.
Spornographe.com.
Le joueur de hockey n'est pas toujours quelqu'un de très vif d'esprit. Il peut lui arriver d'oublier de s'hydrater pendant un match, ce qui peut causer une sécheresse dans la région de la gorge. Heureusement, il y a la propagande de Gatorade sur YouTube pour que ça lui rentre dans le casque.
Je pense que la déshydratation dans le hockey peut être un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne portent pas attention beaucoup à ça. Puis j'étais joueur de hockey, je paierais beaucoup plus attention à ça.
Si t'étais un joueur de hockey, mon Jean-Sébastien Giguère, t'aurais sûrement pas besoin de faire des infos pubs de boissons énergisantes pour arrondir tes fins de mois.
Les internets, c'est vraiment malade.
Et si Léonard de Vinci avait un fils, il serait l'auteur du Wikipédion. C'est pour vous, ça, Jean Dion. Hein?
Ben, c'est bon, bonsoir, Jean. Vous êtes gentil.
Je sais, on est comme ça.
Alors, aujourd'hui, deuxième et dernière partie du quiz sur l'histoire de Canadiens.
Ah, c'est vrai.
Qui a célébré, n'est-ce pas, son centenaire vendredi passé.
Qui en a commencé un autre depuis.
Oui,
Alors, voilà.
Ouais, OK, on est prêt.
1942, le 1er février. J'ai continué ma fouille de la glorieuse histoire des Canadiens, là, de
Léandre Normand.
Normand et Pierre Bruno.
Cachez pas vos notes, là, je regarde dessus.
Ben ouais, c'est ça. Regarde mes notes. 1er février 1942, Canadien va jouer au Chicago.
Ouais.
Oui.
Qu'y a-t-il de nouveau?
Laissez-moi chercher sur Internet.
Des banques. Baies vitrées.
Non.
Des arbitres.
Non.
Des lignes.
Pour la première fois, ils y vont en avion.
Arrêtez-vous donc.
Parce qu'avant, ça
faisait en train.
Mais ils l'ont fait en train encore par la suite. Ils n'étaient pas toujours en avion.
Donc 1942, hein?
Ouais.
OK. Good.
Ouais, et quand il y a eu des équipes à Los Angeles après et tout, ils n'y allaient plus en train.
Ben, j'imagine, hein?
1943-44, Maurice Richard gagne 5 000 $ par année.
Ouais.
Alors, il doit avoir une job pendant la morte saison.
Ouais.
Que fait-il?
Il travaille dans une shop.
Dans une usine, là?
Dans une shop.
Non.
Dans une usine.
Déménageur.
Déménageur.
Non.
Soudeur.
Non.
Dans une shop.
Non.
Dans une usine.
Il vend des automobiles.
Ah oui, c'est vrai.
Mais imaginez, vous allez vous acheter un char, c'est Maurice Richard, vous ne pouvez pas ne pas l'acheter.
C'est vrai.
Voilà.
Ça me
là, je vais tester votre connaissance de Canadien.
Okay.
Vous devez me répondre au mot à mot, à la lettre près.
Okay.
En 1952, le directeur général de Canadien, Frank Selke, fait installer une inscription dans le vestiaire de Canadien.
Ah, mon Dieu.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Bras meurtri,
ouais, portez bien haut le flambeau.
Meurtri. Vous savez même pas.
Ben écoute, hey,
nos bras meurtris vous tendent le flambeau.
Voilà.
Et en vrai?
Bien haut.
Bien haut.
À vous de le porter bien haut.
De le porter bien haut. Puis
à vous
deux, trois
toujours, toujours de le porter bien
Jean,
haut.
Sans vous avez dit la réponse tout de suite, votre chronique, ça tombe à plat.
Fini.
Celle-là est bonne. 1959-60, Jacques Beauchamp.
Oui.
Vous vous souvenez de Jacques Beauchamp?
On s'en souvient beaucoup.
Qui est à l'époque directeur des pages sportives de Montréal Matin. Signe un contrat avec Canadien. À quel titre?
Il signe un contrat. De presse. Attendez un petit peu que je cherche sur les internets.
Non. Relationniste de presse.
Gardien de but substitut à Jacques Plante.
Il est nommé gardien de but auxiliaire de Jacques Plante pour les matchs à l'étranger.
C'est ce que je me...
Mais Plante va les garder tous. Alors Beauchamp jouera jamais. Mais imaginez que Canadien là, aujourd'hui échangerait mettons Halak à Philadelphie parce qu'ils ont des problèmes.
Pourquoi Philadelphie? Puis qu'il me signe moi mettons.
Ou Régent Tremblay devient gardien auxiliaire. Et il n'avait pas démissionné de son poste. Ouais. Il est encore journaliste, directeur des pages sportives.
Si on parle d'une objectivité journalistique à toute épreuve.
Auxiliaire de Canadien.
C'est bon, votre affaire. Continue.
22 février 1979. Mm-hmm. Que font tous les joueurs de Canadiens?
Lâchez les internets.
Ben là, sur l'île de Samoa. Ah non, c'est pas une bonne
idée. Allez-y. Alors, le 22 février, Canadiens bat Pittsburgh 12-0.
Oh là là!
Okay. Oui. Et tous les joueurs marquent un point.
Sauf tous les joueurs.
Sauf le gardien.
Sauf le gardien, Michel Larocque.
Ouais.
OK. Et un point. Dryden. Oui, un but ou une passe.
Ouais.
Et
okay.
Ça, c'est impressionnant. 18 ont un point.
C'est impressionnant, ça.
C'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on a le temps pour une autre? Non.
Oui.
Ben, allez-y, allez-y. Allez-y,
une dernière.
1974-75, que fait la rondelle expédiée par Steve Schott sur la patinoire du Forum?
Elle leur vole.
Oui, effectivement. Okay. Non, elle dévie sur un bâton d'un joueur des Blues de Saint-Louis. Elle fracasse une vitre. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Elle a probablement passé par une sortie. Elle a fracassé une vitre et s'est retrouvée sur la rue Sainte-Catherine. Et on dit que les passants étaient médusés.
Ben, je comprends.
C'est pas formidable.
OK, ça va être beau, par exemple. Merci beaucoup, M. Dion.
Merci. La semaine prochaine.
Wikipédion, disponible au www.spornographe.com.
La mémoire est une faculté qui oublie.
Sacrée mémoire!
Ginette Renault a fait paraître en 2009 un nouvel album qui contient notamment la pièce originale « Fais-moi la tendresse ». Pour sa part, Guillaume Latendresse, lui, a débuté sa carrière avec Canadien en 2006. Pourtant, Ron Fournier de CKAC affirme avoir fait jouer en onde cette chanson dès les tout premiers matchs de Latendresse avec Canadien. Chapeau, mon Ron!
Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse.
Beaucoup, ça, cette affaire-là. Je me souviens, la première fois que j'ai fait jouer ça, ce tune-là...
J'ai eu une petite larme.
C'était dans les premiers jours de la tendresse dans l'uniforme du Canadien.
Chapeau!
Ces gars-là sont souvent pas préparés pour ça parce qu'ils connaissent pas ça.
Vous écoutez une future reprise de Spornographe sur Radio-Canada Sport Continu. Radio-Canada Sport Continu, vos textes sont de la partie.
Très important.
1, 2, 3.
Tu m'as pas de rester devant le micro.
OK.
Écoute, c'est on s'amuse. Hein,
Fait que là, on se fait une petite minute, on jase, mais comme si on était en entrevue.
On peut pas tout avoir dans la vie.
Moi, je t'avais fait une copie papier.
Ça, on va le savoir, là, mais...
C'est bon, fait qu'on serait prêt.
On inaugure aujourd'hui un tout nouveau segment au Spornographe qui s'intitule « Dans le salon de Guy Carbonneau » et notre premier invité, Hazard, l'ancien numéro 21, ancien entraîneur de Canadien, Guy Carbonneau. Guy Carbonneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez au courant qu'on allait faire toutes nos prochaines entrevues dans votre
dans
salon?
Dans votre salon, c'est
on
parfait.
Okay. Parce qu'il y a des coupures, comme ça on essaie d'optimiser. Guy Carbonneau, on pose toujours la même question à nos invités, partisans de Canadien, mais là j'aurais tendance à dire partisans de Canadien ou de Dallas?
Ben là, j'ai un parti pris, c'est sûr. Je veux dire, je vais toujours demeurer un fan des Canadiens de Montréal. Ouais. J'ai passé presque la moitié de ma vie avec cette organisation-là. J'ai joué pendant 12 ans, travaillé pour eux autres. Mon genre joue pour Dallas.
Ouais, c'est pas facile, ça.
Maintenant, j'ai plus d'attache chez Montréal. C'est sûr, certain que je regarde les deux équipes. C'est quand même assez bien.
Une finale de Coupe Stanley Dallas-Montréal, là?
Pas facile.
Pour moi, ça serait facile. Ça serait quand même Dallas, mais...
Ah ouais, c'est ça. Okay, on le dira ça, pas. On le coupera au montage. Vous avez passé quand même 5 ans en tant qu'entraîneur, puis nombre d'années en tant que joueur. Vous avez eu des bonnes relations avec les journalistes. Nous, on a une question pour vous. Qu'est-ce que ça fait de répondre à la même question 3 fois par jour, 7 jours sur 7?
Ouais, c'est jamais facile. C'est sûr, certain que, dépendamment de la façon dont l'équipe joue de ce temps-là, quelle sorte de prestance là, l'équipe a sur la patinoire, c'est après un match que tu as gagné, c'est après un match que tu viens de perdre, il y a 3 matchs de difficile, c'est sûr qu'il y a des occasions des fois qui ça, c'est un peu trop, mais
on se met une cassette à un moment donné dans la tête.
Ouais, c'est ça. Ou est-ce qu'on a le goût de choquer?
C'est sûr et certain, je veux dire, on est tous humains. Tu sais, je veux dire, moi j'étais un gars qui a beaucoup d'émotions. Je l'avais quand je jouais, puis j'étais la même chose comme instructeur, puis je voulais pas la cacher. Je veux dire, c'est ce qui fait que Guy Carbonneau est Guy Carbonneau, c'est que lorsque la question, pour moi, faisait pas de sens, je répondrais quand même à la question, mais j'avais pas de gêne à aller voir le journaliste après et puis essayer de lui expliquer vraiment le pourquoi, ce que tu as sur la patinoire.
Est-ce que ça vous arrive d'écouter ces commentateurs-là, ces analystes-là?
Oui, j'écoutais la radio quand même assez souvent. Je veux dire, je peux pas dire que je prenais tout ce qui s'y disait, mais il y en a des fois qui ont des bonnes solutions, il y avait des bonnes choses à dire.
Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un conseil, disons, que nous aurions évoqué sur les ondes de Radio-Canada ou ce pornographe?
Je peux pas dire que j'ai écouté votre émission.
Comment on a des bons conseils. On avait un très bon outil sur le site qui s'appelait le Carbonotron, qui produisait des trios.
Ah oui, au hasard.
Au hasard, c'est très utile.
Mais on utilisait ça, les changements de trios. C'est une question de longue date. Même quand j'étais à Dallas, on avait Mike King. Ken Hitchcock, qui était quand même un gars qui changeait les trios très, très souvent. Puis Mike King, farceur comme il est arrivé à une pratique un matin d'un match avec un boulier de bingo. Puis il avait mis 20 boules avec le numéro des joueurs. Okay. Puis, en plein milieu de la chambre, il avait fait les trios comme ça.
Ken Hitchcock avait bien réagi.
Il avait trouvé ça drôle.
Ah, c'est quand même bon. On a plusieurs questions d'internautes qui étaient très, très intéressés à votre présence au Sportnographe, et c'est notre ami Paul s'en charge.
Alors, il y a Réal Senior qui vous demande, tu as joué pour les Saguenayens, tu les as aimés, tu les as achetés, tu me vois venir, c'est Réal Senior qui parle. Tu as joué pour Canadiens, tu as dirigé Canadiens, donc tu as sûrement aimé Canadiens. Alors, la question qui tue, vas-tu les acheter? Et si oui, que feras-tu avec Bob Gainey?
Mais là, présentement, on a des nouveaux propriétaires.
Oui,
là,
mais ça change.
Dans la famille Molson.
Ouais.
Disons que au prix où M. Gillette avait payé, je pense que je serais capable de trouver un groupe pour acheter le Canadien, mais au prix que les frères Molson et puis que Bell et les autres l'ont payé, les groupes vont être difficiles à trouver.
Je voudrais pas insister trop, mais Réal Senior souhaite savoir qu'est-ce que vous feriez avec Bob Gainey.
Ben, c'est difficile à dire, parce que Comme un propriétaire, n'importe quel propriétaire qui va faire l'achat d'un groupe comme ça, tu vas évaluer toutes les personnages en poste, du premier au dernier, puis voir quelle sorte de travail qu'il a fait.
Votre évaluation.
C'est sûr qu'il n'y a personne qui se le cache. C'est sûr que j'ai pas aimé la situation, j'ai pas aimé la décision qu'il a prise.
Ouais. Nous non plus, d'ailleurs.
Je savais un jour, à un certain moment donné, que j'allais me faire mettre à la porte. Ça, c'était écrit dans mon contrat. c'est écrit dans le contrat de tous les instructeurs.
Oui, tout à fait.
Mais notre relation, ça va prendre plusieurs années avant qu'elle revienne à la normale, mais je veux dire, j'ai rien. Je sais que c'était pas facile pour lui non plus.
Ouais. Maintenant, Mac Templeton vous dit vous avez été coach de Canadiens et êtes maintenant analyste à la télévision. Coudon, êtes-vous en train de vous monter un CV pour une éventuelle carrière politique comme sénateur?
Non. Je suis très content que Jacques Demers soit là.
Okay,
je pense que c'est un gars qui est honnête, c'est un gars qui est franc, c'est un gars qui peut amener certainement des bons points à des gens politiques.
Ouais.
Mais disons que la politique n'est pas mon forte, puis j'ai aucune aspiration de me rendre là-dedans non plus.
Bon, ben c'est noté. Maintenant, Félix qui veut savoir, est-ce que vous portiez votre fameuse et célèbre cravate le jour de votre congédiement?
Non, j'avais pas de cravate.
On revenait d'un
voyage.
OK.
J'étais dans mon auto, on venait d'atterrir, puis c'est là que j'ai reçu le coup de téléphone de Bob Gainey.
Ah, ça doit être lui d'ailleurs, Bob, là. dit, non, vous ne serez pas au Sportnographe, là, Guy.
C'est ça. Alors, non, j'avais pas de cravate chez moi.
Guy Carbonneau, c'est maintenant le temps de la question cross-check d'en face.
OK.
Alors, Guy Carbonneau, en 1994-1995, vous avez été échangé au Blues du Saint-Louis en échange de... En échange de Jim Montgomery. Vous, contre qui vous seriez-vous échangé pour que ce soit un échange, disons, qui a de l'allure, là?
Ils m'ont dit, je me rappelle même pas des joueurs qu'il y avait dans ce temps-là. Mais c'est vrai que j'étais allé rejoindre des gars comme Brett Hull, Brendan Shanahan, Craig Janney. Écoute, je sais pas vraiment.
Gretzky était-il dans...
Non, il était pas là. J'ai jamais eu la chance de jouer
avec lui. Ah non, OK. Parce que nous, on l'aurait pris.
Il était après, moi, c'est ça. Non, c'est sûr que c'était décevant, je veux dire, mais...
Jim, j'ai vu, il est devenu entraîneur d'une ligue quelconque.
Je sais qu'il n'y a pas une grande carrière dans le hockey.
Salut Jim.
Guy Carbonneau, merci de nous avoir invités dans votre salon. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre entrevue. Parce que ce ne sera pas vous.
Ça va me faire plaisir. Je vais faire le ménage avant que vous arriviez.
Merci beaucoup.
Merci.
J'avais hâte que la tendresse la ferme.
Qu'est-ce qu'il a dit, la tendresse?
Il a dit, le Canadien m'a utilisé.
Faut pas que tu le surutilises.
Effectivement.
Non, c'est pas un élément de panique, c'est un élément de travailler puis de détermination et de désespération pour gagner des matchs. Tu dois jouer désespéré.
J'écoute ça ce matin. Il y a beaucoup de positif qui est bon.
Moi, si je suis une femme, que je lis les nouvelles puis j'apprends que Tiger a fourniqué à gauche et à droite.
Ça dit début janvier encore, par exemple.
Mais là, on circule entre les branches que ça serait fin décembre.
Congédié par le gouvernement pour avoir organisé la séance de vaccinage en...
Hey Paul,
oui.
Supposons que vous furtez sur les interwebs à la recherche d'une chose vraiment cool à faire du type réseaux sociaux. Vous nous conseilleriez quoi?
Personnellement, réseau contact, mon gars. Il y a de la femme là-dessus, pas croyable.
Ouais, je parlais plus de Facebook et de Twitter, Paul.
Ah, ben ça, vous le savez, ça fait 5 semaines, je vous le répète.
Ben oui, mais
le Spornographe est sur Twitter à l'adresse twitter.com/spornographe. Puis on est aussi sur Facebook. Ça, c'est à l'adresse facebook.com/spornographe. On blogue également Canadien les soirs de match. Ça, vous me dites, c'est où, Paul? Je le trouve jamais. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, mais calmez-vous, là. Bientôt, lors des matchs de Canadien, il va y avoir de la belle promo sur la une du site de Radio-Canada au sujet de notre blog. En attendant, tapez radiocanada.ca/hockey, puis vous allez voir, c'est comme de la magie, ça marche, c'est pas croyable.
Wow. Merci. Yvan, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine?
La semaine prochaine, le Père Noël sera avec nous pour nous donner nos cadeaux, puis j'espère que ce sera pas le DVD de l'an 50, parce que je l'ai déjà.
Merci. Ne manquez pas Christiane Charrette en rediffusion dans quelques instants, qui nous dira...
La première fois que j'ai dansé dans ma vie... Non, qu'on le garde là-dedans...
Et on paye ça avec nos taxes.
Merci, Christiane. Il ne faudrait pas oublier de remercier nos collaborateurs, les trois accords à la guitare, notre réalisateur et co-animateur, Jean-Philippe Le Pourri Plot, concepteur et co-animateur, Olivier Bonnelight-Niquette, Steve Côteau au montage et François Goupil à la technique, Stéphane Gourde aux archives, Évelyne Charuet à la recherche, notre stagiaire Béatrice Bernard-Poulin et toute l'équipe de la cafétéria de Radio-Canada pour leur excellent rouleau Mexico.
Ont également plus ou moins participé au succès de ce beau programme. Donald Beauchamp, Michel Keble, Alexandre Provencher, Charles Plourde, Joanne Lapierre, Guillaume Saint-Onge, André-Pierre Bérubé, sans oublier Jean-Philippe Chien-Chauchis-Vautier à l'animation, ainsi que nos amis les auditeurs sans qui on ferait quand même une très bonne émission, mais ça nous prendrait juste plus de temps à la préparer. C'est comme ça. Sur ce, on reconnecte pas plus tard que dimanche à 23h pour une belle rediffusion. Là, c'est quoi, là? Vous attendez à la vraie fin, là? Il n'a pas cette semaine. Ah ouais, il se cramait.